Il est midi sur Europe 1.
Piotr Plavinsky et sa compagne visée par une information judiciaire dans le cadre des vidéos intimes de Benjamin Griveaux. Le détail dès le début de ce journal.
La mise en garde de Bruno Le Maire sur d'éventuelles suppressions d'usines chez Renault.
J'ai appelé le président de Renault pour lui dire que l'État serait très vigilant sur les questions d'emploi et de sites industriels en France.
Réaction du ministre de l'Économie après que la directrice générale du groupe a dit la semaine dernière qu'il n'y aurait aucun tabou. Renault a perdu 141 millions d'euros en 2019.
C'était sur Europe 1 ce matin. Henri Poupart-Lafarge, le patron d'Alstom qui veut racheter Bombardier pour créer un géant du ferroviaire, désamorce lui aussi les inquiétudes sur l'emploi.
Dans ce journal également, le déplacement d'Emmanuel Macron dans un quartier sensible de Mulhouse. On ne parle plus de communautarisme et de séparatisme islamiste.
Le coronavirus, Olivier Véran reçoit les professionnels de la santé au ministère pour envisager toutes les hypothèses.
Réformer l'ENA, mais aussi les autres institutions publiques. C'est ce que veut faire Frédéric Thiriez et son rapport ne plaît pas à tout le monde. Nous serons avec la magistrate Céline Parizeau.
Et puis le match ce soir, celui qu'on va tous suivre sur Europe 1 dès 20h, Dortmund-PSG. L'entraîneur parisien est aux aguets.
C'est un match d'un niveau très très haut. Pour ça, c'est nécessaire qu'on reste calme, tranquille, attentif et intelligent.
Voilà ce que dit Thomas Tuchel. La météo, Céline Dacosta.
Un ciel encore mitigé aujourd'hui avec du soleil, des éclaircies, parfois encore quelques averses. Et puis une nouvelle perturbation qui va arriver ce soir pour la moitié nord, une perturbation pluvieuse. Merci Céline Dacosta, on vous retrouve à 12h30 pour une météo complète.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le parquet de Paris a ouvert deux informations judiciaires à l'encontre de Piotr Plavinsky. La seconde vise aussi sa compagne.
Oui, la seconde qui concerne cette diffusion de vidéos intimes de Benjamin Griveaux. Marion Dubreuil, vous êtes au palais de justice. Le couple va être présenté à un juge d'instruction dans la journée.
Oui, pour le parquet de Paris, à ce stade, peu importe si la jeune femme, destinataire des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, a délibérément transmis ou non les images à son compagnon actuel, Piotr Plavinsky, les a, à minima, enregistrées et conservées contre la volonté de l'homme politique. Reste à déterminer son implication dans la diffusion des vidéos. Quant à l'activiste russe, il a publiquement revendiqué la mise en ligne des images. Son rôle est clair au moins sur ce point et sa mise en examen fait peu de doute. L'objectif de cette information judiciaire, c'est de permettre de faire des investigations plus poussée pour établir le degré de responsabilité du couple et déterminer s'il s'agit d'un coup monté prémédité contre l'ex-candidat LREM à la mairie de Paris. Les enquêteurs vont notamment exploiter les smartphones du couple à la recherche d'éventuelles complicités ou relais. Le parquet de Paris a demandé le placement sous contrôle judiciaire des deux suspects. La détention provisoire n'est de toute façon pas une option pour le délit d'atteinte à la vie privée ou la diffusion d'images à caractère sexuel sans l'accord de la personne. Quoi qu'il arrive, la compagne de Piotr Plavinsky ressortira donc libre aujourd'hui. L'activiste russe, lui, pourrait être placé en prison dans l'autre dossier pour lequel il est mis en cause, celui des violences volontaires avec armes de la nuit de la Saint-Sylvestre.
Merci de ces précisions. Marion Dubreuil au palais de justice de Paris pour Europe 1.
Et il est midi 3 à la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Elisabeth Assayag.
Une sortie de Bruno Le Maire ce matin à Bruxelles. Le ministre de l'économie s'est exprimé à propos de Renault.
Et c'est une mise en garde. Renault a perdu 141 millions d'euros en 2019. La directrice générale par intérim, Clotilde Delbos, n'a rien exclu vendredi dernier. Aucun tabou, a-t-elle dit, dans le cadre du programme d'économie à venir.
Et voilà donc ce que lui répond Bruno Le Maire.
J'ai appelé le président de Renault ce week-end, dimanche précisément, Jean-Dominique Sénard, pour lui dire que l'État, qui est actionnaire de Renault, serait très vigilant sur les questions d'emploi et de sites industriels en France. Que Renault ait besoin de s'adapter, bien sûr. Qu'il y ait besoin d'une stratégie industrielle pour l'alliance Renault-Nissan, bien sûr. Et c'est ce que fait Jean-Dominique Sénard. Il le fait avec beaucoup de talent et beaucoup de détermination. Il a toute notre confiance. Mais nous devons engager un dialogue comme actionnaire de référence dans Renault pour veiller à l'emploi et aux sites industriels dans notre pays. Ça ne veut pas dire refuser toute évolution. Ça veut dire regarder ce qui est le plus pertinent, ce qui protège le mieux l'emploi, ce qui protège le mieux les intérêts de long terme de Renault en France.
Bruno Le Maire à Bruxelles avec Isabelle Horry.
Autre inquiétude, elle concerne le rachat de la branche ferroviaire de Bombardier par le français Alstom.
Oui, l'idée est de créer un géant des transports, mais évidemment à chaque fusion, on se demande s'il n'y a pas trop d'usines. Emmanuel Dutheil, il y a donc des inquiétudes sur l'emploi. Est-ce qu'elles sont réelles?
Alors la direction, justement, tente de rassurer les salariés. Une réunion téléphonique est organisée avec les syndicats d'ici une vingtaine de minutes et dès ce matin sur Europe 1, Henri Poupart-Lafarge, c'est le patron d'Alstom, a promis qu'il n'y aurait pas de suppression d'emplois en France.
cette opération ne fait pas peser de menace du tout sur l'emploi en France et ailleurs. Bien au contraire, le transport ferroviaire est en forte croissance et a besoin de talents, et a besoin de toutes les énergies et des employés de moyens de transport et des employés de la Somme.
Et pourtant, il peut y avoir des inquiétudes, hein, puisque par exemple, comme à Valenciennes, les usines Alstom et Bombardier sont quasiment à côté. Leurs carnets de commandes sont bien remplis, assure-t-on chez Alstom. Le but affiché de cette fusion, c'est justement que le carnet de commandes reste bien rempli. En rachetant Bombardier, Alstom met sur pied un géant de la mobilité avec nos TGV, bien évidemment, mais également des trains à hydrogène, des métros. Ce marché est en forte hausse un petit peu partout dans le monde. Reste maintenant à confirmer ce mariage. Bruno Le Maire, que l'on vient d'entendre, a profité d'être à Bruxelles pour plaider ce matin ce dossier directement auprès de la commissaire européenne en charge de la concurrence.
Merci. Emmanuel Dutheil, c'était attendu, les ventes de voitures ont plongé au mois de janvier dans toute l'Europe, moins 7,5% en cause les nouvelles normes anti-pollution.
À vous écouter Europe 1, il est midi 5, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Elisabeth Assayag.
C'était une promesse de campagne renouvelée plusieurs fois. Cette fois, on y est. Emmanuel Macron présente tout à l'heure un plan contre le séparatisme islamiste.
L'idée de lutter contre la radicalisation. Le président est en déplacement dans un quartier sensible de Mulhouse, Bourdsviller. Jean-Rémy Baudot, vous êtes sur place et on remarque, Jean-Rémy, que les mots ont changé. On ne parle plus de communautarisme mais de séparatisme.
Oui Pierre, le terme communautarisme, il est jugé trop vaste par l'entourage du président de la République. Séparatisme permet selon l'Élysée de mieux cibler un ennemi désormais clairement assumé, l'islamisme politique. Un proche du président Macron me confiait, l'enjeu c'est de reprendre le terrain perdu, là où la République a reculé depuis trop longtemps, confirme un ministre concerné. Dans les lieux de culte, les associations, le scolaire hors contrat, les salles de sport, tous ces lieux où peuvent se développer un communautarisme religieux, des populations qui ne veulent plus faire partie de la communauté républicaine, décrypte un conseiller. Ce plan, ça fait longtemps que l'Élysée travaille dessus. La riposte de l'État va être déclinée pendant les prochaines semaines. Pas de grand discours du président, mais une série de mesures concrètes dès aujourd'hui avec le retour des services publics dans ces quartiers, le travail avec les associations, le dialogue avec les habitants et surtout plus de moyens pour les forces de l'ordre et le renseignement afin de lutter notamment contre les ingérences et les financements étrangers. Le quartier de Mulhouse, composé de barres d'immeubles où arrive Emmanuel Macron, est à l'image de cette lutte. Depuis deux ans, Bourdsviller fait partie d'un programme discret de lutte contre la radicalisation. Sans bruit sur tout le territoire, ce programme a permis de fermer des lieux de culte, des débits de boissons, des écoles. On est sur une ligne de crête, reconnaît l'Élysée, bien conscient de que cette lutte contre la radicalisation ne doit pas entraîner une stigmatisation de l'ensemble des musulmans.
Jean-Rémy Vedeau en direct de Bourdsviller pour Europe 1. Justement, Christian Jacob, le patron des députés républicains, ironisait sur, non pas des députés républicains, mais du parti Les Républicains, ironisait sur le choix de la sémantique ce matin sur Europe 1.
Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est une vraie politique de sécurité. On n'attend pas que le président de la République fasse des phrases. On attend qu'il agisse. Or, aujourd'hui, d'action, il n'en a pas eu. Depuis deux ans et demi, rien n'a été fait. Il a reporté ce discours combien de fois ? La première fois qu'il en a parlé, c'était en janvier 2018, puis en juin 2018, puis en janvier 2019. Et tout ça pour arriver à dire, est-ce que c'est du communautarisme ou est-ce que c'est du séparatisme ? Mais de qui se moque-t-on ? C'est un débat qui touche la République. C'est les élus du peuple qui doivent décider. À quoi sert l'Assemblée ? Si on n'a pas ce débat et si on ne le tranche pas à l'Assemblée nationale avec ceux qui sont là pour porter la voix du peuple, refuser d'avoir ce débat, refuser d'avoir des propositions, mais quelle indignité ! Vous savez, quand on cède sur ce terrain-là, soit on soutient, soit on est dans la lâcheté.
Christian Jacob, ce matin avec Sonia Mabrouk sur Europe 1.
Il est midi 8.
Europe 1.
Une pause et dans un instant, toute la vérité sur le coronavirus. Réunion au ministère de la Santé autour d'Olivier Véran.
Il est midi 10, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Elisabeth Assayag.
C'est le dossier prioritaire d'Olivier Véran. Le ministre de la Santé l'a dit hier à sa prise de fonction, la crise du coronavirus.
Et il va falloir s'habituer au nom de code de ce virus, le Covid-19. Ouais. Réunion au ministère de la Santé, en effet, avec tous les professionnels du secteur en ce moment. Quelle piste envisager ? Élément de réponse avec Hélène Terzian.
L'objectif, c'est de mettre au diapason urgentistes, infectiologues, médecins généralistes et, si cela est nécessaire, de monter d'un cran la réponse à la crise du coronavirus. Pour le patron du SAMU, François Braun, il s'agit surtout d'adapter le protocole à suivre.
Le SAMU restera, quelle que soit l'évolution de ce plan, le chef d'orchestre du dispositif. Mais les patients que nous hospitalisons systématiquement aujourd'hui pourraient, dans une phase plus épidémique, ne plus être hospitalisés si jamais ils présentaient des signes cliniques extrêmement bénins. Et on a toute une organisation maison, qui ferait du suivi à domicile.
Nous imaginons le pire parce que c'est notre travail, mais il ne faut pas être alarmiste, poursuit-il. On est d'ailleurs loin d'un scénario catastrophe tel qu'il avait pu être envisagé pour la grippe H1N1, rassure Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France.
On n'est pas dans la situation qui avait été imaginée en 2005 lors de la fameuse grippe aviaire. Il avait été envisagé de fermer les transports, les écoles, de confiner la population chez elle, fournir la nourriture par des employés municipaux habillés comme des martiens.
Nous ne sommes pas dans un cas extrême ni dans une éventuelle pandémie, estime-t-il, même si à l'heure qu'il est, le Covid-19 a fait plus de morts que le SRAS.
La santé encore avec ce virus qui, cette fois-ci, touche les exploitations de tomates. Contamination identifiée dans le Finistère. Pas de danger pour les humains, mais la souche détruit les fruits. Gros impact économique pour les exploitations. 1500 exploitations seraient concernées. HSBC, la banque HSBC, va supprimer 35 000 emplois en 3 ans dans le monde, en cause une réduction de ses activités aux États-Unis et en Europe. Moins 53% pour le bénéfice net en 2019. Pas encore d'informations sur une éventuelle vente du réseau français.
Allez, on part au ski. Et vous êtes en train de nous écouter. Toutes les stations ne sont pas éco-responsables, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais, l'exemple le plus criant, c'est peut-être Luchon Super Bagnères dans les Pyrénées qui a décidé d'enneiger ses massifs avec un hélicoptère. Alors au ministère de l'écologie, on est scandalisé. Du coup, on va réunir tous les responsables des domaines skiables. Quel est l'objectif, Pauline Jacquot ?
C'est de faire cesser ces initiatives absurdes, c'est très clair. Ce sont les mots de l'entourage d'Elisabeth Borne. Arrêtez d'amener à tout prix la neige dans les stations, prévient un conseiller. Il faut plutôt imaginer leur avenir via d'autres activités. Alors ça peut être de la randonnée, du VTT, de la spéléologie. Le ministère veut recenser tout ce qui se fait déjà dans le Vercors, les Vosges ou les Pyrénées par exemple, pour bâtir un plan d'action à l'échelle nationale.
Parce qu'il y a déjà des stations qui font preuve d'imagination ?
Oui, pour garder la neige par exemple, la station des Saisies, c'est en Savoie. Eh bien cette station, elle utilise une technique des pays nordiques, conserver la neige d'une année sur l'autre en la protégeant par une couche de sciure de bois. Ils arrivent ainsi à préserver 8000 mètres cubes de neige, des initiatives écologiques doublées de progrès technologique, selon Alexandre Molin, le président de Domaines skiables de France.
Nous cherchons comment demain développer un carburant propre pour pouvoir damer sans émettre de gaz à effet de serre. Beaucoup de stations utilisent des GPS pour passer moins d'heures de dameuse, donc on réduit tout ce qu'on peut réduire. Le GPS nous permet aussi sur les dameuses de moins produire de neige parce qu'on sait exactement la couche que l'on dispose sous les chenilles de nos dameuses.
Il y a aussi tout ce qui concerne la gestion de l'eau des canons à neige, par exemple. Il faudra évidemment adapter, prévient-il, les mesures à suivre, suivant le chiffre d'affaires des stations, de 15 000 euros pour les plus petites à 70 millions d'euros pour les plus importantes.
Merci Pauline Jacquot.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 14, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Elisabeth Assayag.
C'est un rapport qui ne passe pas inaperçu. Frédéric Thiry est l'ancien patron de la Ligue de foot qui a été chargé d'une mission sur la réforme de l'ENA, donne un coup de pied dans la fourmilière.
Oui, parce que le climat social de ces derniers mois a peut-être conduit à un changement de paradigme. Alors l'ENA, mais aussi les autres institutions publiques comme Polytechnique ou les écoles de la magistrature sont peut-être trop élitistes. Olivier Samin, ce rapport, qu'est-ce qu'il préconise ?
Eh bien, ce rapport propose un ensemble de réformes pour permettre à la haute administration française d'être plus représentative de la société avec une vraie diversité. Si on résume, il y a trois grandes préconisations. D'abord, créer une vingtaine de classes préparatoires dans toute la France pour ouvrir la voie à des jeunes issus de tous les milieux et de tous les territoires. Deuxième préconisation, instaurer un socle commun de 6 mois par lequel passeraient tous les futurs hauts fonctionnaires, qu'ils soient administrateurs civils, magistrats, commissaires, cadres de santé. Dans ce socle, il y aurait une préparation militaire de 3 semaines, et oui, puis 3 autres semaines consacrées à l'encadrement des jeunes du service national universel. Et ensuite, troisième préconisation, les futurs hauts fonctionnaires rejoindraient leurs écoles respectives, l'école de la magistrature par exemple, ou l'ENA, qui serait rebaptisée école d'administration publique, sachant qu'à la sortie, ils n'auraient pas tout de suite l'entrée dans les grands corps du style inspection des finances, conseil d'État ou cours des comptes. Non, pendant 2 ans, les jeunes cadres feraient de l'administration de terrain. Ils entreraient ensuite dans l'institution qu'ils ont choisie, mais ils ne seraient titularisés qu'au bout de 4 ou 5 ans. Alors ce rapport a été salué ce matin par le Premier ministre, qui en retient les grandes orientations et qui annonce que l'année 2022 sera la première année de mise en œuvre des nouvelles modalités de sélection et de formation des hauts fonctionnaires.
On dirait que ça vous fait peur, la préparation militaire, Olivier. Vous avez fait votre service militaire, vous, pourtant.
Je l'ai fait, voilà. Mais ça remonte à très longtemps. 79-08.
Merci, Olivier Samin.
Bonjour, Céline Parizeau.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'Union syndicale des magistrats. Un peu plus de souplesse, on vient d'entendre Olivier Samin détailler le rapport, un peu plus de souplesse dans la formation des magistrats, ça vous fait peur ?
On n'est pas opposé à une formation de 6 mois en commun avec les hauts fonctionnaires. L'important pour nous, c'est que la formation, elle préserve la qualité de la formation qui est aujourd'hui dispensée, c'est-à-dire que les magistrats, ce n'est pas des préfets, ils doivent apprendre à juger sans préjugés, à exercer leurs fonctions sans parti pris, et c'est une formation qui a donc des spécificités, d'autant plus que nos fonctions sont extrêmement techniques et requièrent beaucoup de connaissances. Aujourd'hui, notre formation, elle fait quand même 31 mois. Insérer 6 mois communs avec d'autres, pourquoi pas, mais pas à n'importe quel prix. Il faut qu'on reste dans un objectif pédagogique adapté.
Ça veut dire qu'il y a un risque de lacune, c'est ça ?
C'est ça, il y a un risque qu'on n'apprenne pas tout ce qu'on a besoin de savoir pour être un bon magistrat, tout simplement.
Vous pensez qu'il y a de la discrimination positive dans le recrutement ? On crée un concours un peu à deux vitesses ?
Alors, créer un concours à deux vitesses, on y est totalement opposé, puisque là, c'est vraiment de la discrimination, pour le coup, et elle ne nous apparaît pas du tout positive. Par contre, la discrimination positive, si on peut l'appeler comme ça, dans la préparation au concours, oui, pourquoi pas. Enfin, d'ailleurs, elle existe déjà pour l'ENM, pour l'École nationale de la magistrature, on a déjà des dispositifs de type classe prépa ou partenariat avec des universités pour des étudiants boursiers, pour des étudiants qui sont présélectionnés justement pour venir de quartiers difficiles ou des choses comme ça. Donc on a déjà cette discrimination positive qui permet d'assurer la diversité du recrutement et c'est quelque chose qui doit être développé.
Et la préparation militaire, pour vous, ça n'a pas de sens ?
Aucun, non, c'est
pourquoi
clair.
Pourquoi
comme je le disais tout à l'heure, la justice, elle est indépendante. Les magistrats, ils ne sont pas là pour être formés à marcher au pas ou à répondre à des ordres. C'est très exactement l'inverse des objectifs pédagogiques de l'ENM actuellement.
Il y a aussi une idée de cohésion, d'amour de la nation dans le monde militaire. Il n'y a peut-être pas que marcher au pas. C'est peut-être un peu caricatural ce que vous dites, non ?
Il n'empêche que ça n'a rien à voir avec ce qui va être demandé aux magistrats par la suite. Je pense que
de la même façon qu'à l'école polytechnique, on est officier, on est aspirant, et puis ensuite on fait complètement autre chose. On peut travailler dans une banque. Enfin,
jamais de manière indépendante par rapport au gouvernement. Ce qu'on demande aux magistrats, c'est justement de ne pas répondre à des ordres qui leur seraient donnés parce que l'égalité de chacun devant la justice nous impose d'être indépendant. Donc on ne peut pas décemment commencer notre formation par une formation militaire. C'est complètement absurde.
Je comprends mieux. Merci beaucoup Céline Parizeau, présidente de l'Union syndicale des magistrats. Merci d'avoir été en ligne et en direct avec nous dans Europe Midi.
Il est midi 19.
Europe 1.
Une nouvelle pause et dans un instant... Le mur jaune de Dortmund, c'est ce qui attend le PSG ce soir. A tout de suite. Il est midi 22, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Elisabeth Assayag.
Le foot et les Parisiens confrontés ce soir à un mur.
Ouais, le mur jaune de Dortmund, la plus haute tribune de supporters jamais vue dans les stades de foot. C'est un choc dans la Ligue des Champions. Et bien sûr, ce choc, on va le suivre sur Europe 1 ce soir dès 20h avec Lionel Rousseau, toute l'équipe des sports, soirée spéciale en public et en direct au studio Pierre Bellemare.
Julien Froment, vous allez commenter ce match avec Cyril de la Morinerie. Dans cette rencontre, il y aura un duel d'attaquants avec côté allemand le dénommé Haaland.
Oui, il va falloir à la fois retenir ce nom et parfaitement le prononcer car on risque bien d'en entendre parler pendant quelques années. Erling Braut Haaland, donc 19 ans. Voilà, le visage encore poupon mais un physique de déménageur, 1m94, 87 kg et surtout une précision de tireur d'élite devant le but. Il est arrivé cet hiver à Dortmund et ses statistiques sont affolantes. 17 buts en seulement 12 matchs. Voilà donc pour ce jeune Haaland de 19 ans, le Norvégien. En tout cas, son entraîneur Lucien Favre est tout simplement épaté par l'état d'esprit du garçon.
Que ce soit dans les matchs, que ce soit à l'entraînement, une mentalité fantastique. S'il manque une occasion à l'entraînement, il s'arrache les cheveux, il n'est pas content et puis il veut toujours travailler. Et puis il a une grosse marge de progression. Naturellement, à 19 ans, c'est normal. Quoi.
Bon, vous nous décrivez là un joueur invincible. Julien, heureusement côté français qu'on a Mbappé. Hein.
Oui, voilà, lui, pas besoin de faire les présentations, tout le monde le connaît, le champion du monde Kylian Mbappé. Et en plus, la Ligue des Champions, eh ben, c'est son royaume. Hein. 30 matchs joués, il est impliqué dans 30 buts. Et puis Dortmund aussi, ça lui fait pas peur parce qu'il est déjà allé jouer au Signal Iduna Park. C'était en 2017 avec l'AS Monaco. Mbappé avait à peine 17 ans. Eh bien, il avait fait le mur, justement. Deux buts qu'il avait propulsés dans une autre galaxie. Eh bien, ce soir, avec son coéquipier Neymar, il espère démontrer à nouveau qu'il reste le chef de file des prodiges du football mondial.
Merci Julien Froment, et donc à ce soir pour le match.
Et ce soir, vous allez en prendre plein la vue à Bercy. Angèle est en concert jusqu'à vendredi soir.
Plus de 500 000 disques vendus en moins d'un an et demi. C'est un véritable phénomène. Angèle arrive à séduire un public de 7 à 77 ans.
Et notre Angèle à nous, Angèle Châtelier, est là pour nous expliquer. Dites-nous, Angèle, ce qui fait la force de cette chanteuse hors norme.
Et puis à quoi bon ?
Angèle parle à tous les publics, ceux qui attendent des j'aime sur les réseaux sociaux pour reprendre son titre La Thune, comme les victimes de harcèlement avec Balance ton quoi. Elle n'a qu'un album à son actif et c'est celui qui s'est le plus vendu en France l'année dernière, plus que l'album posthume symphonique de Johnny Hallyday. Mais la chanteuse est un phénomène aussi par sa carrière fulgurante. En novembre 2018, elle réussissait une prouesse, faire un concert complet dans la salle parisienne du Trianon en ayant sorti seulement deux titres, Je veux tes yeux et La loi de Murphy. Depuis, le phénomène a presque dépassé l'artiste. Depuis un an, Angèle est sur scène presque un jour sur deux pour son Brawl Tour, le nom de son album. Vendredi dernier, elle remportait la victoire du meilleur concert aux Victoires de la Musique.
Ça ne s'arrête jamais et je pense qu'au bout d'un moment, je vais pouvoir prendre une pause et réaliser tout ce qui m'arrive dans ma vie.
Ces quatre dates à l'Accor Hotel Arena, Angèle reviendra encore en festival cet été.
Et merci Angèle Châtelier.
On écoute beaucoup ça chez vous, je crois, hein, Elisabeth.
On adore. Il est midi 25.
Merci Pierre Devineau, à tout à l'heure.